Bonsoir à tous et merci de votre présence ce soir pour une conférence qui va porter sur l'engagement politique des surréalistes. Mais d'abord, je voudrais présenter notre conférencière qui est Madame Reynaud Paligaud, qui est enseignante au sein des universités de Californie et de New York à Paris et qui enseigne également à l'Institut des sciences politiques. Elle est co-animatrice de la thématique biologisation du social dans l'axe corps, santé, société à la Maison des sciences humaines de Paris Nord et chercheur associé au Centre d'histoire du 19e siècle pour les universités de Paris 1 et de Paris 4. Sa thèse portait sur ce dont elle va nous parler ce soir et à partir d'un ouvrage qui a été publié aux éditions du CNRS en 1995 et réimprimé en 2001, dont le titre est « Parcours politique des surréalistes 1919-1969 », texte préfacé par Jacques Julliard. Puis, à l'occasion de son travail d'HDR, sa recherche s'est réorientée vers ce qu'on appelle la raciologie, ou la manière dont la théorie des races a pu légitimer un certain nombre de choix politiques. Il y en a de tristes exemples dans l'histoire européenne. Cela a donné lieu à plusieurs publications que j'évoque rapidement. Tout d'abord, La République raciale, 1860-1930, Paradigme racial et idéologie républicaine, qui a été publié au PUF en 2006. Race, racisme et antiracisme dans les années 1930, publié en 2007. Et enfin, en 2011, un ouvrage intitulé « De l'identité nationale, science, race, politique en Europe et aux États-Unis, 19e, 20e siècle ». Voilà. Je vais lui laisser tout de suite la parole. Donc, nous allons revenir peut-être à la fois un peu en arrière dans son travail de recherche, mais peut-être la question de la raciologie pourra faire l'objet d'une conférence ultérieure, parce que c'est un sujet vraiment passionnant. Et nous parlerons ce soir du parcours politique des surréalistes, donc 1919-1969, et de leurs engagements. Merci.
Merci. Donc, merci pour cette invitation et de me donner l'occasion de reparler de ces travaux que j'ai entamés il y a près de 20 ans maintenant et que je continue à travailler en parallèle avec donc, cette autre thématique sur la science des races. Alors, la poésie surréaliste, souvent, on la situe entre révolte et révolution. Donc, c'est un petit peu cette histoire qu'on va retracer ensemble en essayant de montrer la spécificité de ce mouvement surréaliste dans son rapport aux politiques. Une spécificité donc, qu'on peut essayer de situer par rapport aux autres mouvements d'avant-garde ou aux autres mouvements littéraires qui ont eu des implications politiques. Alors, l'étude des mouvements littéraires, je crois que vous la connaissez bien, elle a donné lieu à des approches différentes, diverses. Donc, il y a ce qu'on peut appeler l'analyse littéraire qui se centre sur l'œuvre ou sur l'auteur. Il y a des approches plus historiques qui vont se centrer un petit peu sur le contexte, sur l'émergence de certaines figures. Et puis, des approches qu'on qualifie maintenant de socio-historiques ou de sociologie historique, qui essayent d'appréhender le phénomène littéraire d'une manière un petit peu différente et qui se pose comme objectif d'essayer justement de démythifier le fait littéraire, de rompre avec une vision un petit peu romantique du génie littéraire qui consiste donc à retracer ces parcours hors du commun, à l'émergence de ces génies. Et qui se centre un petit peu sur la construction donc d'une figure littéraire ou d'un mouvement littéraire à partir des contraintes, des concurrences qu'on peut voir émerger au sein d'un champ littéraire ou encore de ce que les sociologues appellent l'espace des possibles, comment se manifeste, comment émerge un mouvement littéraire dans un contexte spécifique au sein de ce champ littéraire. Voilà, ce sont des études qui ont été impulsées par Pierre Bourdieu et qui ont donné lieu à, depuis une vingtaine d'années, à à des travaux donc de sociologie historique. Voilà, donc l'idée, c'est de dire que les mouvements littéraires sont placés dans des logiques qui dépassent les seules problématiques littéraires et qu'il y a d'autres enjeux à mettre au jour. Des enjeux de concurrence, des enjeux de lutte pour l'accès à des capitaux symboliques, des enjeux liés donc à des concurrences entre des acteurs qui tentent de, d'émerger et de se faire reconnaître. Alors, ces différentes approches, littéraires, historiques, socio-historiques, ne sont pas forcément antagonistes. On peut, et certains l'ont fait, tenter de les combiner. Je pense notamment à l'historien Christophe Charles, qui revendique un usage croisé des méthodes historiques et littéraires, et qui insiste aussi sur la place un peu particulière que tient la poésie dans l'histoire des mouvements littéraires. En effet, on peut constater que la poésie a souvent été délaissée par les historiens ou les sociologues, parce qu'ils leur préfèrent des documents plus accessibles à l'approche historique, tels que les romans ou les récits de voyage, les correspondances. Et la poésie donc tend à être restée un petit peu dans le champ classique des études littéraires et a peu intéressé les historiens ou les socio-historiens. Voilà, donc le contexte un petit peu intellectuel ou d'historiographie. Je vais vous présenter les études ou l'étude que j'ai consacrée au mouvement surréaliste à travers donc une thèse qui a été publiée, rééditée récemment en format de poche et qui a été aussi prolongée par d'autres articles plus pointus sur certains acteurs du surréalisme. Je pense notamment à Dali, à Aragon, ou certaines problématiques plus spécifiques. Donc j'ai essayé de cerner cette spécificité du mouvement surréaliste dans son rapport aux politiques, d'historiciser ce mouvement poétique et pictural, de le replacer dans l'espace des contraintes, dans les dynamiques de concurrence et aussi de cerner les ambivalences et les ambiguïtés de ce projet qu'on peut qualifier d'esthético-politique. J'y reviendrai par la suite. Alors, un premier point pour situer le surréalisme dans le contexte des mouvements littéraires de son époque ou précédent, et notamment ses liens avec le romantisme, comment le surréalisme entend se situer dans la tradition romantique, mais en même temps rompre avec cette tradition et revendiquer sa spécificité d'avant-garde, donc les héritages, mais aussi les ruptures. Alors je crois qu'on peut dire que le surréalisme est en partie l'héritier du paradigme de l'artiste romantique. Il se situe dans ce paradigme romantique sur plusieurs points. Il est dans un même mouvement de rupture avec l'idée de reproduction de modèles, de règles littéraires. Il est dans un mouvement de rupture avec le concept de travail créateur, hein, l'idée que l'artiste doit travailler pour produire une œuvre. Rupture avec l'idée de travail sur les mots. Et au contraire, il valorise la spontanéité, le hasard, la liberté créatrice. Donc là, il est dans une filiation romantique. Autre point qu'il partage, c'est le refus de l'intégration à la société. Il préfère la marginalité à l'intégration et à la réussite académique. Donc marginalité, excentricité, transgression des règles, qui pousse donc à l'isolement, au retrait, à la mise à l'écart. Et pour compenser ce mouvement de mise à l'écart, il tend à se rassembler dans un groupe, dans un mouvement. Et les surréalistes ont été très attachés à cette vie collective, à cet aspect collectif du mouvement, de vie collective, de fraternité, on pourrait dire. On peut dire aussi que les surréalistes héritent des pratiques de sociabilité, donc issues de la bohème, le rassemblement au café, le lieu de rencontre par excellence du mouvement surréaliste pendant un demi-siècle. Et puis, il s'affirme en tant que mouvement littéraire par toute une série de symboles. D'abord, une identité, il se nomme mouvement surréaliste ou surréalisme. Et puis, toute une série de cérémonies inaugurales, comme les dîners, les banquets, qui ont été beaucoup pratiqués. Et bien sûr, des publications, un rassemblement autour d'une revue qui a pris des titres divers, le premier étant « La révolution surréaliste ». Rassemblement autour de manifestes, à la fois esthétiques mais aussi politiques, donc des moments très importants au sein de cette histoire du surréalisme, des ouvrages, des pétitions, des textes à caractère politique. Voilà pour l'aspect filiation avec le mouvement romantique, mais il est aussi porteur de ruptures assez profondes, notamment à propos d'un point qui me paraît très central dans ce que j'ai appelé l'éthique surréaliste, c'est-à-dire la conception de la création artistique et le rôle dévolu à l'art. En effet, la vision romantique avait beaucoup tendance à mettre l'accent sur la notion de génie créateur, de génie artistique, sur les idées de vocation, de don inné, qui finalement des idées qui traduisaient une vision du monde élitiste, même voire aristocratique. On est porteur d'un don, donc ça entraîne une représentation très, très élitiste. Les surréalistes se situent à l'opposé de tout ceci. Ils vont ériger en valeur suprême une maxime qu'ils empruntent à Lautréamont. Et donc la maxime dit, l'art, je cite, « l'art doit être fait par tous, non par un ». Et derrière cette idée, il y a, je crois, l'idée d'une volonté de démocratisation de la fonction artistique, qui n'a jamais, à mon sens, été affirmée avec une telle force. C'est-à-dire que tout le monde est capable, est potentiellement capable d'accéder à l'œuvre créatrice, de créer, d'accéder à l'art. L'art n'est plus réservé à l'artiste, vu comme un génie, mais il est présent dans la vie de tous les jours, accessible à tout individu, pour peu que celui-ci soit désireux d'y accéder et qu'il puisse aussi utiliser les méthodes appropriées. Alors, les méthodes appropriées, ce sont pour les surréalistes l'écriture automatique, les techniques spécifiques de frottage, de collage, mais aussi les jeux. Alors, ce qui me semble important pour comprendre à la fois le projet esthétique et aussi le projet politique, c'est qu'il y a cette volonté d'affirmer l'égalité de tous devant l'art. C'est une conception qui est assez subversive, qui s'oppose donc, je l'ai dit, à la conception romantique du don inné, mais qui s'oppose aussi à la conception classique du talent acquis par le travail. On travaille, l'artiste est avant tout quelqu'un qui doit énormément travailler pour produire. Donc là aussi, on est à l'opposé de cette conception-là, par le fait que il s'agit d'une démarche plus spontanée, plus libre que cette conception-là. Voilà, alors, au cœur de ce projet surréaliste, il y a, affirment les surréalistes dès la création de leur mouvement, donc je rappelle en 1919, l'idée de réunir deux volontés, deux mots d'ordre. Le premier mot d'ordre vient de Marx. C'est à Marx qu'ils empruntent l'idée de transformer le monde. Et le second mot d'ordre vient de Rimbaud, changer la vie. Donc transformer le monde et changer la vie. Voilà le cœur du projet qui entend lier l'avant-garde esthétique à l'avant-garde politique. Il s'agit d'agir sur un plan esthétique, changer la vie avec Rimbaud, mais aussi il s'agit d'agir sur un plan politique et de transformer le monde. Alors, ce lien entre les deux projets est un peu complexe, compliqué. En tous les cas, il a pris des aspects bien différents au sein des divers mouvements littéraires. On peut constater que, de manière assez paradoxale, les deux volontés ne vont pas de pair. Par exemple, il y a eu de nombreux artistes très novateurs sur le plan esthétique, très à l'avant-garde, qui ont été conservateurs en politique. Et finalement, rares sont les mouvements littéraires qui ont affirmé avec force cette volonté d'être à l'avant-garde artistique et à l'avant-garde d'un point de vue politique. Alors, il y en a tout de même eu, et le plus intéressant pour nous, puisqu'il a souvent été présenté comme l'ancêtre un petit peu du surréalisme, enfin, les surréalismes se sont rattachés à cette tradition aussi, c'est le mouvement qui a émergé à la fin du XIXe siècle autour des poètes symbolistes et des peintres néo-impressionnistes, puisqu'on avait là des techniques artistiques d'avant-garde, hein, le symbolisme ou le néo-impressionnisme d'un point de vue pour la peinture. Et on avait aussi un avant-gardisme politique très affirmé, puisque ces poètes et ces peintres ont été très liés au mouvement anarchiste de la fin du XIXe siècle. On peut citer donc Laurent Taillade pour les symbolistes, mais aussi Rémy de Gourmont, qui ont manifesté toute leur sympathie au mouvement libertaire. Donc, fin XIXe siècle, c'était l'époque des attentats anarchistes. Il y avait un terrorisme anarchiste où des jeunes militants allaient poser des bombes et finissaient sur la guillotine. Il y a eu une répression terrible. Et on a vu ces poètes manifester leur sympathie pour la cause anarchiste, venir dans les procès de ces militants terroristes pour essayer de les soutenir et de leur éviter la guillotine. Voilà, donc il y a eu une jonction entre avant-gardisme esthétique et politique. Alors, c'est vrai qu'il y a une filiation assez nette entre symbolistes, ces poètes symbolistes et ces peintres néo-impressionnistes et la conception surréaliste de l'engagement de l'artiste. Puisque quand on regarde le parcours politique de ces surréalistes, eh bien, ils commencent aussi, eux aussi, à s'intéresser à l'anarchisme et à se tourner vers ces milieux libertaires. Donc au tout début des années 20, même antérieurement aussi également, puisque les surréalistes vont évoquer à plusieurs reprises que pendant leur adolescence, ils ont été fascinés par les attentats anarchistes ou par les exploits de la bande à Bonneau dans les années 1913. C'était ce groupe d'anarchisme qui défrayait la chronique et qui faisait trembler les milieux bourgeois. André Breton évoque aussi la figure d'Émile Henry, qui était un jeune étudiant polytechnicien brillant qui, rallié à la cause anarchiste et au terrorisme anarchiste, a posé des bombes et a fini guillotiné. Voilà, donc dès leur adolescence, les surréalistes ont témoigné de leur intérêt pour ces militants anarchistes et de leur action spectaculaire. Donc on est là dans un même milieu de révolte et d'intérêt pour ces actions extrêmes de la révolte individuelle. Alors, comment on peut comprendre ce lien entre les aspects de l'avant-gardisme esthétique et l'avant-gardisme politique chez les surréalistes? Je crois qu'on peut en suivre assez facilement le cheminement. Donc, au départ, il y a une révolte d'ordre littéraire. Les surréalistes sont en pleine révolte contre l'académisme littéraire, contre le roman, contre les formes traditionnelles de la littérature. Et il y a une volonté donc de se dégager de l'emprise de la raison et de retrouver une sensibilité qui, selon eux, a été opprimée, oppressée, annihilée par la toute-puissance de la raison, qui finalement a entravé le développement intellectuel des individus. Il s'agit, explique-t-il, de retrouver cette sensibilité qui est à la base de l'action créatrice. Et c'est pour ça qu'il s'intéresse beaucoup à l'art des enfants, à l'art des fous ou encore à l'art des primitifs, parce que c'est là, disent-ils, que s'exprime vraiment cette sensibilité dégagée de l'emprise de la raison. Alors, il s'agit de donner libre cours à son imagination, de faire surgir le merveilleux, disent-ils, et d'accéder à la véritable poésie. Et pour accéder à tout ceci, il développe toute une série de techniques qu'ils ont qualifiées d'automatisme. Donc, il y a l'écriture automatique, hein, qui consistait dans un état un petit peu de demi-sommeil, d'écrire, de laisser très spontanément l'écriture venir à soi. C'est ce qu'ont pratiqué donc André Breton et Félix Soupeau au tout début de l'aventure surréaliste en 1919. Cette spontanéité, ce retour à cette sensibilité, ils l'ont cherché aussi à travers les expériences de sommeil hypnotique, qui là aussi visait à se débarrasser de l'emprise de la rationalité, de la raison. Alors, de cette révolte littéraire, de cette recherche d'autre chose, eh bien, très vite se profile une révolte d'ordre politique. Si, disent les surréalistes, la raison, le langage tel qu'on l'utilise sont des obstacles à la création, eh bien, il y a d'autres obstacles qui sont aussi présents, qui sont d'ordre politique, c'est-à-dire ce sont les valeurs de la société dans laquelle ils vivent qui sont considérées comme des obstacles à l'accès au merveilleux et à cette sensibilité. Donc finalement, la société dans laquelle ils vivent est perçue comme oppressive par sa morale, par ses lois, par l'emprise de la religion, des préceptes religieux. Et à l'inverse, il valorise la liberté, le désir, le libre jeu des passions, de l'amour, et finalement une libération totale de l'homme qui doit se débarrasser de l'emprise de ces valeurs bourgeoises qui sont aux antipodes des leurs et qui sont perçues comme opprimantes. Voilà. On voit bien là qu'on part d'une révolte littéraire et qu'on touche très, très vite à une révolte d'ordre politique. Donc tout ce cheminement se déroule pour les surréalistes à la fin des années 10, au lendemain de la Première Guerre mondiale et au tout début des années 20. Alors c'est avec cet état d'esprit qu'ils vont se joindre au mouvement Dada, et qu'ils vont participer à cette subversion dadaïste hein, qui rejoint pleinement les premiers fondements de leur vision du monde qui pose. En même temps, ils prennent assez vite leur distance avec le mouvement dadaïste en trouvant que c'est un mouvement trop nihiliste hein, qui ne propose pas de projet constructif. Et ils vont chercher à développer donc autre chose. Alors l'autre corollaire de cette conception qui émerge dans ces premières années du surréalisme, c'est que le projet surréaliste se caractérise par un refus de l'art engagé. Il s'agit pas du tout, donc dans cette recherche de révolte littéraire et politique, de s'engager dans un art qui serait au service d'une cause et qui se manifesterait par des mots d'ordre clairement politiques. L'art doit conserver sa première fonction, hein, de découverte du merveilleux, d'accès à la poésie, et non pas devenir un art de propagande. Sa puissance révolutionnaire doit trouver sa source dans l'art lui-même. Ça, c'est un point fondamental des surréalistes qu'ils vont essayer de défendre jusqu'au bout, hein, jusque pendant la soixantaine d'années de leur activité officielle. Donc il s'agit bien d'unir les deux démarches, la démarche artistique révolutionnaire et la démarche politiquement révolutionnaire, mais il faut absolument éviter de les confondre, hein, pour aboutir à un art de propagande. Alors finalement, ça se traduit chez eux concrètement par une activité artistique, la poésie ou les techniques picturales, et en parallèle à des actions plus politiques qui vont se manifester sous la forme de pétitions, sous la forme de lettres ouvertes ou sous la forme de textes à caractère politique. Mais jamais ils ne voudront confondre les deux. Alors ça, cette conception de l'art, ça va être un des points d'achoppement, et c'est ce qui va rendre leur engagement politique compliqué, puisque ça va être au cœur de leur divergence avec le Parti communiste. Je vais y revenir donc dans un petit moment. Alors voilà, la grosse question, enfin, l'enjeu de cet engagement politique, il tourne bien sûr autour du rapport qu'ont tenté d'avoir les surréalistes avec le Parti communiste. Ça va les occuper pendant une dizaine d'années, ça a focalisé l'attention de tout le monde parce que... évidemment, c'était quelque chose de central dans les années 20 et 30 de voir des intellectuels se rapprocher du Parti communiste. Et puis parce que aussi très vite, on a été quand on regarde leur histoire, très impressionné par ces poètes qui ont tenté de résister à l'emprise des militants communistes qui voulaient orienter leur action et leur art dans une certaine direction. Et finalement, ça donnait une lecture de ce rapport entre surréalistes et communistes, centré sur la défense de l'autonomie d'un mouvement littéraire face à la pression d'un parti politique qui était en train de devenir totalitaire et qui tentait donc d'orienter, d'inféoder l'art à son service. Cette approche et cette problématique, elle est tout à fait véridique. C'est vrai qu'on peut lire l'histoire de ces rapports sous cet angle-là, c'est-à-dire la résistance d'artistes face à une entreprise politique de caractère totalitaire. Mais il y a aussi d'autres enjeux qu'on peut qualifier, qui ont été un peu masqués dans tout ceci. Et pour véritablement comprendre comment ce groupe d'artistes a, pendant 10 ans, tenté avec beaucoup de difficultés de travailler avec le Parti communiste et de faire des choses avec eux, et il me semble qu'il faut prendre un autre enjeu qui relève de ce que j'annonçais donc au début, c'est-à-dire qui les replace dans un champ littéraire bien spécifique et qui met en œuvre des stratégies littéraires face à des concurrents. Et donc, pour parler plus clairement, quand l'objectif des surréalistes, quand ils vont se rapprocher du Parti communiste, c'est d'essayer de se poser comme les représentants de l'art révolutionnaire et d'obtenir la reconnaissance officielle par le Parti communiste. Ils ont cherché pendant 10 ans à être reconnus par les communistes comme les détenteurs de l'art révolutionnaire. Alors, ce qui est assez pathétique dans cette histoire, c'est qu'ils n'étaient pas les seuls, qu'il y avait d'autres courants littéraires qui cherchaient aussi à se faire reconnaître et qu'ils ont été pris dans cet enjeu et qu'ils ont perdu la bataille. Voilà, alors cette ambition des surréalistes, hein, d'avoir ce label d'art révolutionnaire accordé par les communistes, on la retrouve assez facilement grâce aux archives qui sont disponibles aujourd'hui, même très facilement accessibles, puisque ce sont des archives qui ont été publiées chez Gallimard. Donc tout n'a pas été publié, la correspondance a été longtemps accessible seulement aux chercheurs, puisqu'il y avait des restrictions imposées par André Breton et par les autres. Mais elle est en voie maintenant de publication. La Pléiade, dans la collection de la Pléiade, on a beaucoup de traces de cette correspondance également. Et puis les archives propres du mouvement, c'est-à-dire les comptes rendus des réunions et de toutes leurs activités, ont été publiés chez Gallimard. Donc on voit bien se dérouler, on suit bien la progression, hein, le rapprochement des surréalistes avec les communistes, et puis cette énorme lutte pour obtenir cette reconnaissance. Alors je vais en donner quelques exemples pour illustrer un petit peu tout ça et pour montrer donc que voilà, c'est cette approche quand même qu'il faut aussi démystifier et qu'il faut chercher d'autres enjeux à celle de la lutte de l'autonomie, de la recherche de l'autonomie d'un mouvement artistique face à une emprise politique. Alors, cette révolte que j'ai décrite, cette révolte littéraire qui se double ou qui s'allie à une révolte politique, elle entraîne au départ les surréalistes plutôt vers le mouvement libertaire. Donc, on est dans une tradition proche des symbolistes. Cette révolte, elle amène ces jeunes gens, ils sont très jeunes, au début des années 20, Ils ont tout juste 20 ans, une vingtaine d'années, à se tourner vers les mouvements libertaires, le mouvement anarchiste, mais qui, au lendemain de la Première Guerre mondiale, n'est pas très attractif. Pourquoi ? Parce que l'anarchisme a été un petit peu discrédité pendant la Première Guerre mondiale. Certains anarchistes se sont ralliés à l'Union sacrée, c'est-à-dire qu'ils ont abandonné leur valeur fondamentale qui était le pacifisme pour se rallier à la guerre. Et puis ils sont surtout dispersés, il y a les individualistes, il y a les communistes, il y a toute une petite chapelle de petits mouvements. Et pour des jeunes gens, des jeunes poètes ambitieux, ce n'est pas très attractif, même si d'un point de vue des valeurs, ils sont très proches. Et puis il y a cette grande lueur qui arrive de l'Est et ce mouvement communiste qui, pour la première fois, la révolution de 1917, s'incarne dans un pays et prend vie très, très réellement. Alors évidemment, l'attraction de ces milieux libertaires, c'est un mouvement assez général, hein. Toute cette mouvance anarchiste regarde de très près ce qui se passe en Russie, Et un bon nombre de ces milieux se rallient au Parti communiste et passent d'un anarchisme communiste au communisme lui-même. C'est donc dans ce mouvement-là que s'engagent les surréalistes. Et à partir des années 1925, ils vont manifester très clairement leur intérêt, leur soutien à ce qui se passe en Russie et au mouvement communiste. Alors, la première manifestation en faveur du communisme est exprimée en 1925 à travers un tract ou une déclaration collective. C'est de cette manière-là qu'ils vont s'exprimer, traduire leur engagement politique pendant leurs 60 ans d'activité. 1925, c'est la guerre du Maroc. Et c'est à ce moment-là que, pour la première fois, ils se posent comme anticolonialistes, parce que ça va être une constante du mouvement surréaliste, contre le colonialisme, qui est une oppression de l'homme par l'homme par excellence, disent-ils. Et c'est à ce moment-là qu'ils manifestent donc leur intérêt pour la révolution communiste. Alors, c'est là qu'un premier paradoxe se pose à cet étement du côté des surréalistes, c'est-à-dire qu'en 1925, il n'y a pas de volonté d'adhérer au Parti communiste. Il y a de l'intérêt pour le Parti communiste français, pour l'expérience des communistes en Russie, mais en même temps, il y a une position assez critique sur ce qui se passe. Et le premier paradoxe, donc, c'est que l'adhésion va avoir lieu un peu plus tard, en 1927, et que le rapprochement, qu'ils vont être de plus en plus proches du Parti communiste, 27, 28, 29, je vais détailler tout ça par la suite, à un moment où justement ces jeunes révolutionnaires issus des mouvements libertaires, eux, vont commencer à se retirer. Parce que les premières critiques vont avoir lieu très tôt. 1928, c'est Trotsky qui commence à souffrir, à être victime, être mis à l'écart. C'est à ce moment-là où donc, c'est la fin du règne de Lénine, c'est la préparation l'emprise croissante de Staline à la fin des années 20, et c'est là que les premières critiques vont commencer à apparaître et que va émerger une mouvance qu'on va qualifier assez vite de trotskiste autour de Boris Souvarine en France notamment. Et les surréalistes, eux, vont tenter de rester proches du Parti communiste jusqu'en 1935, donc ils ne vont pas suivre cette mouvance, alors qu'on aurait pu les imaginer suivre ce mouvement, puisqu'ils venaient avec leurs valeurs libertaires, qu'ils étaient fascinés par ce jeune parti communiste, mais que très vite, les autres militants vont s'apercevoir que ces valeurs libertaires, elles sont de moins en moins présentes dans le parti communiste russe et dans le parti communiste français, et vont s'orienter vers des mouvements oppositionnels. Eh bien non, les surréalistes, eux, ne suivent pas ce mouvement-là, et la seule explication qu'on peut avancer, à mon sens, c'est qu'ils ont eu une véritable stratégie littéraire, voulant à tout prix se faire reconnaître comme l'art révolutionnaire, voulant participer à l'élaboration de la ligne culturelle du parti. Ils ont un petit peu fermé les yeux sur les aspects politiques qui s'éloignaient un petit peu de leur idéal, pour réussir à se faire reconnaître. Alors on peut en suivre la trace de manière assez précise, c'est-à-dire que lorsque, en 1925, les surréalistes veulent se rapprocher du Parti communiste, il n'y a pas de ligne directe culturelle définie. Elle est en cours de discussion en Union soviétique. Il n'y a pas de politique culturelle officielle. Le Parti communiste n'a pas dit ce qu'est l'art révolutionnaire. L'art révolutionnaire, c'est ça. Et il y a en fait diverses expériences d'art révolutionnaire qui sont là en concurrence. Il y a par exemple ce qu'on appelle le populisme, qui est un courant littéraire qui veut décrire de manière plutôt misérabiliste la vie du prolétariat et du peuple. Il y a ce qu'on appelle la littérature prolétarienne. En France, c'est autour d'Henri Poulaille. Donc, c'est une littérature qui émane de la classe ouvrière. Ce sont les ouvriers qui écrivent, qui font de l'art de manière assez traditionnelle, en racontant leur expérience, en racontant leur vie. Il y a un autre courant qu'on appelle les compagnons de route. Donc là, ce sont des intellectuels qui sont sympathisants du Parti communiste ou même qui sont réellement engagés au sein du Parti communiste. Donc ces compagnons de route, c'est par exemple Henri Barbusse qui incarne ce courant-là, hein, qui est un des premiers écrivains à avoir rejoint le Parti communiste en 1923, qui a écrit une œuvre autobiographique qui s'appelle « Le feu » et qui raconte comment il a vécu les horreurs de la Première Guerre mondiale. Donc, très empreint de pacifisme. Alors, en Russie, eh bien, Lénine, Trotsky sont assez ouverts sur tous ces courants. Il y a une coexistence de ces courants littéraires dans les années 20-28. Alors, les surréalistes, c'est assez clair dans leurs déclarations, dans les comptes rendus de leurs réunions. Hein, ils sont dans une période qui se veut assez critique. Ils ne veulent pas adhérer au Parti communiste, ils s'en rapprochent. Ils sont assez ambitieux, on retrouve notamment dans leurs discussions internes. Il faut préparer la révolution et la diriger. Alors, ils ne veulent pas adhérer au Parti communiste parce que, ils sont conscients qu'ils représentent une conception de l'art qui est assez avant-gardiste et qui peut déplaire ou ne pas susciter l'adhésion de militants ouvriers qui sont plus proches de conceptions assez traditionnelles de la littérature. Donc, pas d'adhésion parce qu'ils risquent l'exclusion, disent-ils. Et très vite, les réactions des communistes à leur encontre sont assez difficiles, puisqu'il y a une méfiance vers ces jeunes intellectuels, ces jeunes bourgeois, qui sont jugés être un peu loin du peuple, un peu indépendants, un peu indisciplinés, un peu prétentieux. Donc, quand on regarde les archives du Parti communiste français, il y a des réactions assez négatives, mais ça varie aussi selon les individus. Donc, il y a un personnage central comme Paul Vaillant-Couturier qui va manifester de l'intérêt pour ces jeunes révolutionnaires tout de même et va leur ouvrir quelques portes, notamment la possibilité de participer à l'Humanité, d'écrire des articles dans l'Humanité. Ça va durer pendant un certain temps. Il y a à la fois des oppositions, des sympathies. Tout ça est très vite assez conflictuel. Et puis, les surréalistes se rendent compte que cette position en dehors du parti et critique, ne leur réussit pas forcément, ne va pas dans le sens, ne recueille pas, n'entraîne pas un enthousiasme de la part des communistes. Donc, ils changent de stratégie et en 1927, ils décident de paraître comme des jeunes révolutionnaires disciplinés et donc d'adhérer au Parti communiste et de devenir des militants communistes. Alors, en janvier 1927, André Breton, par exemple, est intégré, son adhésion est acceptée et Breton est intégré à une cellule de gaziers. Il se retrouve avec des travailleurs du gaz et on le charge d'une mission très spécifique, produire un rapport sur la situation des ouvriers gaziers en Italie à partir de documents statistiques. Et pour Breton, c'est un choc assez violent. Et il avouera pour la suite, il n'a pas pu remplir cette mission qu'on lui avait confiée. Alors, cette première expérience de militant politique, elle est assez difficile. On a notamment le témoignage d'André Breton, qui raconte que quand il assiste aux réunions, donc on lui demande des choses qui sont très loin de ses préoccupations, et en plus, il est pris à partie, il est violemment attaqué par des militants qui lui reprochent d'être un poète bourgeois et d'être vraiment très loin de la vie des prolétaires. La bagarre était évitée de justesse lors d'une réunion. Et finalement, la période militante de Breton va être très courte, hein, quelques mois au début de l'année 1927. Et puis, il va cesser d'assister à ces réunions parce qu'il il n'y trouve pas, non seulement il n'y trouve pas sa place, mais en plus, il est victime d'agressions. Alors, donc finalement, l'action des surréalistes va se faire en parallèle, c'est-à-dire dans leurs écrits politiques, dans ces déclarations collectives qu'ils ont fait régulièrement, ils vont s'efforcer d'une part de critiquer tous les autres courants que j'ai nommés tout à l'heure, le populisme, la littérature prolétarienne, et Henri Barbusse et les compagnons de route, et défendre l'idée que c'est eux qui sont détenteurs de l'art révolutionnaire, que l'art révolutionnaire par excellence, c'est le surréalisme. Toute une série d'écrits pendant cette période qui va tenter de discréditer les adversaires. Alors le populisme est évacué assez vite parce qu'il ne recueille pas l'intérêt des communistes. La littérature prolétarienne, là ça va être un peu plus compliqué, parce qu'il y a des périodes où elle est très mise en avant, d'autres périodes où elle est un peu discréditée, elle repasse dans l'ombre, mais le concurrent le plus sérieux, c'est quand même Henri Barbusse, et il y a une lutte féroce entre les surréalistes et Barbusse, qui se lance des attaques, qui se critiquent violemment pendant ces années, donc 1927-1929. Alors, ce qui est assez troublant aussi, c'est que, ce que j'ai annoncé tout à l'heure, c'est qu'au moment où les premiers dissidents s'affirment, ceux qui vont s'appeler un peu plus tard trotskistes et commencent à critiquer les dérives du régime communiste en URSS, eh bien, les surréalistes, eux, s'éloignent de leurs anciens amis et au contraire font beaucoup de déclarations d'allégeance à la politique officielle du Parti communiste français ou de la politique du Parti communiste soviétique. Alors, il y a dans cette tentative de rapprochement des hauts et des bas, hein, puisque comme la ligne culturelle du Parti communiste, que ce soit en Russie ou en France, n'est pas encore clairement définie, qu'elle fait des zigzags entre les compagnons de route, la littérature prolétarienne, les surréalistes. Il y a des moments de désespoir où les surréalistes, on le voit dans les archives, arrivent, disent « on n'y arrivera jamais, on est aux antipodes de ce que pensent les militants communistes, on n'y arrivera jamais ». Et puis d'autres où il y a un petit espoir parce qu'à Moscou, il y a eu une déclaration contre la littérature prolétarienne ou parce qu'il y a eu en 1928, une nouvelle stratégie dite de classe contre classe, hein, où les pires ennemis sont devenus ceux qui étaient plus proches, c'est-à-dire les socialistes. Et finalement, ces compagnons de route, l'option compagnons de route a été discréditée. Alors là, on voit les surréalistes qui reprennent espoir, qui disent « on va y arriver, on est proche du but ». Enfin, c'est quelques années d'intense activité, d'espoir, de désespoir, de désillusion. Et puis, eh bien, ça se termine mal pour les surréalistes parce que ni les soviétiques ni les communistes français ne vont opter pour cet art révolutionnaire. C'est assez pathétique aussi parce qu'il y a des enjeux de personnes très forts, c'est-à-dire que Aragon va lâcher les surréalistes pour rejoindre le Parti communiste. Donc on voit bien, là aussi, on a maintenant les archives qui sont à Moscou, et on voit bien comment les communistes ont mis la pression sur Aragon, hein, pour lui faire renier le surréaliste. Et c'est ce fameux congrès de Kharkov où les surréalistes sont partis plein d'espoir en confiant donc à Aragon et à Georges Sadoul la mission de faire reconnaître le surréalisme. Ils ont reçu des lettres enthousiastes d'Aragon et de Sadoul disant « tout va bien, on est sur le point d'aboutir, le surréalisme est très bien vu, tout se passe bien ». Et en fait, Aragon a signé, sans le dire tout de suite, un texte qui reniait le surréalisme, qui prenait ses distances avec le surréalisme. Donc ça va être la catastrophe quand les autres vont découvrir tout ça. Enfin, je vous passe tous les détails, mais tout ça pour dire que voilà, il y a eu un enjeu proprement, une ambition très forte de la part des surréalistes et de grandes déceptions. Ça se termine en 1932, donc c'est la rupture avec Aragon. C'est un nouvel espoir en même temps parce que c'est le moment où la littérature prolétarienne passe de mode en Russie soviétique. Donc un nouvel espoir, mais finalement, ça continue sur le même registre. Et en 1935, dernière tentative de Breton au Congrès des écrivains pour la défense de la culture, de faire reconnaître le surréalisme comme un révolutionnaire, mais en fait c'est là un autre courant littéraire qui va être mis en avant, enfin une autre théorie littéraire qui s'appelle le réalisme soviétique et qui est aux antipodes évidemment de la liberté artistique telle que pouvaient la défendre les surréalistes. Août 1935, là c'est la rupture totale. Breton et ceux qui sont restés de son côté disent rompre avec le parti communiste et dénoncent le stalinisme et les premières manifestations du stalinisme, la répression envers les premiers opposants, les premières critiques, et puis également quelque chose de très grave à leurs yeux, c'est la réhabilitation des valeurs bourgeoises. On n'est plus dans l'antimilitarisme, on n'est plus dans l'internationalisme, dans le pacifisme, dans l'anticolonialisme. On voit réapparaître, au contraire, des valeurs aux antipodes, le culte de la personnalité, le patriotisme, et puis la littérature de propagande qui est valorisée. Voilà, donc la lutte qui a eu lieu, donc 1925-1935, c'est quand même 10 années de lutte pour un échec complet. Et voilà, alors si on fait une lecture un petit peu rapide des choses, on peut donner une version assez différente en disant que les surréalistes ont été les premiers intellectuels à comprendre le stalinisme et à dénoncer le stalinisme en 1935. En fait, quand on regarde la période 28-35 et les archives dans le détail, on voit qu'ils avaient compris bien plus tôt que dès 1928, ils ont été au courant de la répression contre Trotsky, puisqu'ils étaient dans ces milieux-là, et que les premiers procès des années 30, on voit dans leurs comptes rendus officieux qu'il y a des inquiétudes. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces procès qui ne paraissent pas du tout équitables? Ils ont compris les choses bien plus tôt, mais que leur ambition de se faire reconnaître comme un révolutionnaire les a fait garder le silence sur ces divergences politiques jusqu'en 1935. Voilà. Alors, donc je me suis arrêtée longuement sur cet épisode parce que c'est central. Le mouvement communiste a pris une telle place dans notre histoire politique que ce rapprochement d'intellectuels, évidemment, c'est quelque chose d'assez fascinant. Mais l'engagement politique des surréalistes ne se termine pas avec cette expérience, cet échec. Le projet esthétique et le projet politique, ils vont tenter de continuer à le mener, mais avec beaucoup de difficultés. Il y a un ancien surréaliste qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Révolutionnaires sans révolution ». Ils vont continuer à être révolutionnaires, mais ne pas trouver leur révolution, puisqu'ils ne se reconnaissent plus dans la révolution communiste telle qu'elle se passe en URSS. Alors, ils vont essayer de se rapprocher des anarchistes, ils vont retrouver leurs premiers idéaux de jeunesse. dans les années 1950, il côtoie les militants anarchistes, il participe à un journal anarchiste qui s'appelle Le Libertaire pendant quelques années, mais là aussi ça va être source de déception. C'est un petit, ça va s'avérer encore une fois difficile de travailler avec des militants d'origine populaire qui ont une conception de l'art très différente, plus classique, et qui n'arrivent pas à comprendre véritablement cette avant-garde. Mais il y aura aussi d'autres engagements. Donc l'anticolonialisme dès 1925, ça va être une constante, ça a été une constante de l'engagement politique surréaliste. Ça va bien sûr se manifester surtout après les années 50, au moment de la décolonisation. Ils vont soutenir ces mouvements de décolonisation. Ils vont s'engager dans la guerre d'Algérie. Ils vont bien sûr être favorables à l'indépendance de l'Algérie, soutenir les militants algériens. Il y a, là aussi, on a des témoignages d'André Breton, qui avait donc dans les années 50 un certain âge, une cinquantaine d'années, qui était déjà un personnage important du champ littéraire, qui se déplaçait pour témoigner dans des procès de militants anarchistes ou trotskistes qui s'étaient engagés en faveur de la guerre d'Algérie. Un engagement aussi, j'ai oublié de le dire, dans les années 30, assez clair contre le fascisme, contre la montée du fascisme. Donc on les trouve membres du CVIA, le Comité de Vigilance des Intellectuels Antifascistes. Un engagement très fort aussi pendant la guerre d'Espagne. Ils vont soutenir ces républicains espagnols. Certains d'entre eux, notamment Benjamin Perret, va prendre les armes et participer à la guerre d'Espagne aux côtés des militants trotskistes et anarchistes. C'est bien sûr la dénonciation du stalinisme, des procès de Moscou. On les trouve dans toutes ces réunions publiques et ces rassemblements d'intellectuels qui ont dénoncé les procès. 1938, c'est aussi le rapprochement avec Trotsky, qui a été un personnage important, qui, dès leur jeunesse, ils ont été fascinés par ce militant révolutionnaire. Et ils vont le retrouver en 1938, élaborer un texte en commun, qui révèlent leur conception de l'art commune. Mais là aussi, c'est comme avec les anarchismes, le militantisme n'ira pas bien loin du côté des trotskistes. Voilà, et puis c'est d'autres engagements un peu moins connus, comme par exemple les surréalistes, et notamment André Breton va être très actif dans le mouvement de reconnaissance de l'objection de conscience, aux côtés d'un militant anarchiste qui s'appelle Louis Lecoin. Ils vont essayer de protéger ces premiers objecteurs de conscience qui refusent de faire leur service militaire ou de partir à l'armée. Et ils vont, ce combat-là va aboutir en 1962 à la reconnaissance par l'État français d'un statut d'objecteur de conscience qui va permettre à des jeunes gens donc d'éviter la répression et la prison par refus de porter les armes. Voilà, alors des révolutionnaires sans révolution, mais aussi, peut-être pour terminer, un petit mot sur les ambiguïtés de ce projet qui voulait allier avant-gardisme politique et avant-gardisme esthétique. La première ambiguïté, c'est qu'il y a eu des moments dans leur histoire où les grands principes ont un petit peu fléchi, et notamment cette volonté de ne pas aller dans un art de propagande et cette volonté de dissocier la révolte politique et de laisser s'exprimer la révolte artistique sans mot d'ordre politique a quelquefois été un petit peu infléchie, notamment à la fin 1933-1934, au moment où le rapprochement avec les communistes était un peu désespéré. Breton a un petit peu oublié les techniques avant-gardisme d'écriture automatique pour essayer de d'écrire des pour finalement écrire des poèmes à caractère un peu directement politique, donc ce qui allait totalement à l'encontre du projet initial. L'autre ambiguïté, c'est qu'on peut dire que un certain nombre de surréalistes n'ont pas eu la volonté aussi marquée que celle d'André Breton de traduire cette révolte par des engagements politiques. Il y a par exemple un certain nombre de peintres qui ont été très peu politisés, voire pas du tout, hein, qui ont mené une carrière artistique finalement assez loin de l'idéal tracé par André Breton, qui refusait donc ce carriérisme. Ce qui est assez troublant par rapport au projet initial de Breton, c'est qu'il y a une certaine indulgence pour ces peintres, comme par exemple André Masson ou par exemple Dali, qui n'ont pas été très politiques. Donc Breton a un petit peu fermé les yeux en disant, alors que justement l'optique surréaliste était de se séparer de ceux qui ne partageaient plus les valeurs et le projet, et d'exclure. Hein, donc c'est pour ça qu'on a aussi parlé du pape du surréalisme qui excluait les déviants. En fait, lorsque le projet n'était plus partagé, il y avait séparation. Or là, il y a eu pendant un certain nombre d'années une certaine tolérance pour ces peintres peu politisés, peu intéressés, ou même pour Dali, pour des peintres qui ont manifesté des options idéologiques et politiques diamétralement opposées. Quand Hitler, quand Dali s'est mis à délirer sur Hitler, il y a eu rupture finalement, mais exclusion. Mais pendant un certain temps, il y a eu une certaine tolérance qui était assez troublante, comme si finalement il y avait une difficulté à se séparer de ce d'une partie de ce surréalisme pictural qui avait beaucoup quand même contribué à la notoriété du surréalisme lui-même. Donc là, il y a d'autres enjeux moins éthiques et plus intéressés. Voilà, bon, je vais peut-être, ça fait longtemps que je parle, je vais peut-être m'arrêter là et puis on pourra revenir, si vous le souhaitez, sur certains aspects de ces questions. Je n'ai pas pu en une heure tout aborder, c'est un petit peu un survol, mais c'est aussi un éclairage particulier, hein, sur le fait que un mouvement littéraire n'a pas toujours un fonctionnement qui est uniquement motivé par des conceptions littéraires, qui peut y avoir des ambitions et des luttes très, très, très claires. Merci. Voilà.
Alors je pense que cet exposé extrêmement, extrêmement riche et avec un parcours historique vraiment qui nous a fait revisiter le XXe siècle ne va pas manquer de susciter des questions. Donc je laisse la parole à la salle. En tout cas, moi j'en ai beaucoup.
Moi, j'aimerais bien connaître votre avis personnel, puisque vous avez quand même un éclairage très, très, très vaste sur cette question. Est-ce que vous pensez que cet engagement politique était nécessaire au surréalisme ?
Je pense qu'il fait partie du projet initial, hein, que justement la spécificité de ce mouvement, c'est qu'il me semble que c'est un des rares. Bon, après, il y a eu par exemple d'autres exemples dans les années 60, un petit peu de ce style-là, mais je trouve que c'est le mouvement qui a porté le plus loin, hein, cette volonté de révolution, non seulement domaine artistique, c'est-à-dire qu'on ne va pas changer les formes de l'art, mais on va aussi s'ériger contre les valeurs de la société et chercher à changer le monde avec une optique révolutionnaire, progressiste. Donc c'est assez généreuse. Et voilà, donc je pense que c'est un projet qui enfin, les deux sont très liés chez eux et ils portent ça tout au long de leur mouvement, alors avec des difficultés, parce que comment incarner cette révolution politique dans un mouvement politique ? Eh bien, ils n'y sont pas arrivés, puisque le communisme les a déçus, l'anarchisme n'a pas mené très loin, le trotskisme non plus. Voilà, donc je pense que c'est voilà, il y a un lien très très fort entre les deux qui est consubstantiel à leur projet.
Oui, parce que dans ce que vous avez dit, il est très clair qu'ils avaient un véritable engagement révolutionnaire, mais effectivement, c'était des révolutionnaires sans révolution, et on aurait pu s'attendre, surtout qu'ils étaient très créatifs, à ce que cet engagement puisse prendre une autre forme que quelque chose de vraiment politique, d'une façon aussi classique. Finalement, ils ont vraiment cherché à rallier un mouvement politique, et plutôt que de créer quelque chose de différent.
Oui.
D'où leur échec.
Oui, c'est sûr que ce type de projet est très ambitieux et très, très difficile à mener. Hein. C'est beaucoup plus simple de se contenter d'essayer d'être révolutionnaire dans le domaine artistique, parce que là, on peut facilement mener à bien et obtenir une reconnaissance. Et d'ailleurs, finalement, c'est ce qui s'est passé, parce que je trouve qu'aujourd'hui, dans les études ou dans la... comment dire, la vulgarisation, enfin la présentation de ce mouvement dans l'espace grand public. Je pense à l'expo qu'il y avait eu à Beaubourg en 2002, une grande expo sur le surréalisme, et les aspects révolutionnaires et politiques étaient totalement passés sous silence, quoi. On montrait la poésie, enfin tout l'avant-gardisme esthétique, mais l'engagement politique, on l'a fait un petit peu disparaître, quoi, parce que voilà, c'est un petit peu gênant.
Bien. J'aimerais vous allez parler de surréalisme, mais je pense que vous avez oublié le ultraïsme. C'est aussi un mouvement de poésie qui s'est été fait en Espagne et aussi est venu en France, même dans l'Allemagne, et que ne parle pas beaucoup. Peut-être parler de surréalisme, c'est très bien, mais ultraïsme, c'est aussi bien, parce que ce sont les anciens anarchistes, soit liés en Espagne, soit liés en France, qui avaient un grand approche avec le Parti communiste.
Oui, mais vous voulez nous en parler un petit peu, si vous les connaissez bien.
Bien, je connais un petit peu, mais je ne suis pas lié avec cette philosophie, sauf que à des grands poètes. Un français, c'est Jean-Henri Azéma, je ne sais pas si vous connaissez. Bien, c'est lui était proche du Parti communiste en France. Mm-hmm. Il s'est été en même temps peintre, politologue, et qui a fait partie du premier mouvement, on va dire, anarchiste pour la libération de l'âme artiste des poètes en France. Mm-hmm. Après, bien, à des poètes comme Guillermo Latorre, Pedro Garfias, Vicente Iodobro, et bien des gens comme vous connaissez dans l'Amérique latine, par exemple comme Octavio Paz, mm-hmm. ou comme Gabriel García Márquez, mm-hmm. ou Pablo Neruda. Et donc, ça sont des gens qui sont liés vraiment à ce mouvement qui a commencé, on va dire, après le romantisme dans les années 1900 et est arrivé jusqu'à 1956.
Oui, oui. Donc, il y a eu beaucoup d'autres, comment dire, rapprochements entre des artistes et des mouvements politiques, ou des artistes qui ont eu des engagements politiques. Il y en a évidemment énormément. Peut-être que, quand même, la spécificité du surréalisme, c'est qu'il y a eu un avant-gardisme très esthétique, très, très novateur, qu'on ne trouve peut-être pas chez des romanciers latino-américains qui ont, eux, conserver des une approche plus classique de la littérature, le roman, ou peut-être moins novatrice d'un point de vue esthétique, quoique ça soit discutable peut-être aussi, et qui aussi ont eu des engagements à l'extrême gauche très, très, très marqués. Bon, il y en a d'autres, hein. C'est vrai que moi j'ai donné un éclairage sur quelque chose que j'ai bien étudié, mais... mon histoire est très franco-française. Hein, c'est j'ai pas poursuivi les recherches sur d'autres mouvements dans d'autres pays. On peut dire, c'est qu'en France, il y aura. Les surréalistes vont quand même créer une tradition. Cette idée d'allier les deux, avant-gardiste politique et esthétique, va être reprise, par exemple, par les situationnistes. Hein, qui vont, et tous ces mouvements autour de mai 60, des années 60, qui vont là aussi essayer de maintenir cette volonté avant-gardisme politique, avant-gardisme esthétique, mais pas de propagande non plus, pas d'art de propagande, hein, de tenir ce schéma-là et de recréer autre chose. Bon, les situationnistes vont dire ce qu'ont fait les surréalistes, c'était très bien, mais ça s'est essoufflé. Nous, on va à nouveau porter cet idéal et... Et voilà, donc c'est une tradition qui peut-être, je crois, naît avec les symbolistes et qui va se retrouver ensuite à différents moments du XXe siècle.
Avant de passer le micro à monsieur, c'est peut-être hors sujet, mais je posais la question de savoir quel est le rapport entre les surréalistes et la psychanalyse.
Bon, ils vont beaucoup s'intéresser à Freud et aux premiers écrits de Freud hein, dans les années 20, mais sans aller très loin dans ce sens-là, quoi. Disons que ce qui les intéresse chez Freud, c'est la découverte de l'inconscient. Donc ça rejoint leur approche de se débarrasser du monde rationnel, de retrouver le merveilleux, la sensibilité. Donc voilà, toutes les notions que Freud développe autour de l'inconscient, ça va beaucoup les intéresser. Par contre, la psychanalyse en tant que telle, ils n'ont pas directement participé à ça. Voilà, au rêve, bien sûr, oui, à la sensibilité, au rêve, au merveilleux. Oui.
Pour les gens qui n'aiment pas beaucoup les surréalistes, ils font valoir que c'était finalement André Breton qui menait la barque, et il le présente comme une sorte de dictateur, un petit peu. Bon, je ne sais pas si cette réputation est usurpée ou non, enfin bon. Mais il est vrai qu'on a l'impression quand même qu'ils se prennent au jeu dans ces espèces de manifestes incessants en matière de... politique, essentiellement, il se répète énormément. Et René Dommal, à certains moments, les déshabille complètement et leur dit vous fourvoyez dans ces histoires politiques alors que vous étiez capable de faire quelque chose de puissant et d'intéressant en matière artistique et littéraire. Vous embourbez dans ces imbécilités politiques. Enfin, je résume et je caricature, mais c'est un peu ça. Et moi, j'ai aussi, qui ne connais pas grand-chose à la question, j'ai un peu cette impression. Quand j'avais 18 ou 20 ans, enfin j'étais en terminale, j'ai lu un bouquin de Michel Carouge qui est intitulé André Breton, les données élémentaires du surréalisme, quelque chose comme ça. Mm-hmm. Et j'ai moi aussi eu l'impression qu'il y avait une véritable philosophie, quelque chose de très, très intéressant là-dedans, dans la spéculation surréaliste. Mais après, par la suite, là, vous avez évoqué les situations et tout, bon... ces manifestes politiques étaient d'une platitude et d'une sottise la plupart du temps absolument désarmante. Alors moi, je crois que les surréalistes, finalement, ont été un peu confrontés à ça dans toute leur carrière, malheureusement, et qui n'ont jamais su prendre un véritable essor en matière politique. Soit en distançant, soit au contraire en mimant, etc. Enfin bref, sinon, ça n'a jamais véritablement donné quelque chose. Alors que si c'était tenu à leur avant-gardisme de type littéraire, etc., enfin artistique et autres, ils seraient, à mon avis, parvenus à quelque chose de très intéressant et très puissant, finalement.
Oui, alors...
D'une certaine façon, je viens presque à dire que c'est... Cette politisation a finalement écourté la carrière surréaliste, ça n'a pas empêché une véritable éclosion, si on veut, une véritable éclosion culturelle.
Alors, sur le premier point, donc sur Breton, dictateur ou pape du surréalisme, comment dire, c'est des interprétations après qu'on peut faire. Quand on regarde les archives et le compte-rendu de leurs discussions, on ne voit pas Breton imposant un dictateur, quand il n'a pas un pouvoir politique, la notion a beaucoup de sens. On voit une personnalité très forte, un homme convaincu de ce qui veut mener à bien son projet esthétique politique et qui dit chaque fois qu'il y a une déviance, donc en André Soupeau, ensuite Dali, ou quand il voit qu'il y a des divergences, des artistes qui s'éloignent de ce projet initial, qui n'hésitent pas à rompre, quoi. Alors bon, après, est-ce qu'il faut qualifier ça de dictateur ou simplement d'homme convaincu et qui veut maintenir un projet qui l'a fixé ? Oui. Voilà, oui. Bon, donc après, chacun est libre d'interpréter les choses. Moi, je pense que c'était une personnalité très, très forte et qui a voulu maintenir son projet et qui a dit qu'il vaut mieux se séparer de ceux qui ne partagent plus notre projet, d'où des exclusions, d'où des actes un peu provocants ou un peu comment dire un peu radicaux. Voilà. Après, sur l'autre aspect, alors là aussi c'est des questions d'interprétation. On peut tous ces détracteurs qui ont dit mais finalement l'aspect politique des surréalistes c'était pas le plus intéressant, ils auraient dû se maintenir dans un aspect, ça va à l'encontre du projet initial, puisque le projet il veut à la fois allier les deux, donc ça veut dire que c'est plus le surréalisme, c'est autre chose si on reste dans simplement la poésie, l'écriture automatique, enfin si on reste dans cet aspect là et qu'on abandonne la lutte pour transformer le monde, c'est qu'on fait autre chose que du surréalisme. C'est plus le projet initial de Breton. Alors,
le communisme avait une véritable dynamique. En fait, c'est quelque chose. Ça représentait quelque chose. Rien à voir avec ce qui existe maintenant en matière politique.
Oui, voilà. Ce qu'il faut, c'est aussi l'analyse, c'est que voilà, on regarde nous avec rétrospectivement avec ce qui s'est passé ensuite. Mais sur l'avant-gardisme politique, il faut quand même aussi reconnaître que, par exemple, l'anticolonialisme, ça a été quelque chose de très avant-gardisme. Hein. Ça a été, en 1925, dénoncer la colonisation et c'était totalement... marginal, c'était très courageux aussi, hein, parce qu'on était dans un schéma de supériorité des civilisations occidentales et de dénigrement des civilisations non occidentales. Donc ça a été quand même quelque chose de très novateur, hein, d'affirmer si fort un anticolonialisme. Et ce qui va avec leur anticolonialisme politique, c'est une réhabilitation des cultures africaines, océaniennes, indienne, et cette passion pour l'art africain, l'art primitif qu'ils ont porté, ça a été quand même quelque chose de très 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 important, hein. Ça c'est eux qui ont réussi à ouvrir, à changer le regard qu'on avait sur ces sociétés qu'on méprisait totalement, et grâce à l'art ils ont ouvert un autre regard sur ça, et je pense que ça c'est quand même quelque chose qui a été très marquant dans le XXe siècle, hein. Oser dire qu'il y avait un art, que l'art primitif était un art, alors que toutes les théories raciologiques affirmaient que ces sociétés n'avaient pas de...
Ils n'ont pas été les seuls à le dire, d'autres l'ont dit, hein.
Non, mais ça a démarré là, hein, ça a démarré avec Picasso, les surréalistes qui sont allés chez des marchands redécouvrir des statues africaines et les exhumer, ou avec Michel Léris qui a fait partie de la mission Dakar Djibouti et qui a rapporté ses premiers objets et qui a dit mais regardez, c'est de l'art, regardez ces sociétés, elles ont une culture, elles ont une richesse, alors qu'on les méprisait depuis quelques siècles, quoi. Voilà, donc il y a quand même au niveau politique des choses qui ont marqué quand même et qui étaient véritablement à l'avant-garde, qui étaient en rupture avec les schémas, les représentations dominantes de l'époque. Alors évidemment, quand on regarde ça avec nos yeux à nous et quand on sait ce qu'est devenu le communisme, ça fausse un petit peu le regard. Quoi. Oui, voilà, il y a eu. Oui, disons qu'il y a eu une convergence, il y a eu une convergence entre ces premiers anthropologues et ces artistes pour s'intéresser à ces civilisations non occidentales si méprisées. Mmh. Voilà, il y a eu des personnages importants comme Michel Léris, qui était à la jonction entre ces milieux artistiques, puisqu'il a fait partie des surréalistes, et puis cette anthropologie, cette première anthropologie culturelle, sociale, de terrain, qui a porté un autre regard que celui des raciologues. Voilà, donc tout ça, c'est très... Oui, il y a eu aussi, je crois qu'ils ont apporté leur pierre hein, à ce nouveau regard qui a été porté à partir des années 20, 30 sur les autres sociétés qu'ils ont rejoint en cela, les anthropologues comme Lévi-Strauss aussi. Oui.
Bon, il nous reste 5 toutes petites minutes, donc s'il y a une autre question, bref.
Oui, j'étais frappé par le fait que vous avez parlé de l'anticolonialisme assez longuement, de l'antifascisme, et je me posais la question, qu'en est-il du féminisme ?
Oui, c'est une bonne question, et c'est un peu compliqué, parce que là, c'est un petit peu difficile de les mettre à l'avant-garde, parce qu'ils ont eu des conceptions plutôt traditionnelles. Bon, je n'irai peut-être pas jusqu'à machisme, mais disons assez traditionnel. Déjà, il y a eu très peu de femmes. Il n'y a pas eu de femmes surréalistes. Il y a eu des compagnes de surréalistes qui ont été plus ou moins associées. On les voit un petit peu apparaître dans les réunions. Et puis, voilà. Donc, bon, après, il y a des conceptions surréalistes de la femme qui ne sont pas forcément très féministes, hein, qui sont à la fois très... très idéalisante, hein, très favorable à la beauté féminine et à la femme qui incarne le rêve, le merveilleux. Mais il n'y a pas eu comment dire, une approche si révolutionnaire dans les rapports hommes-femmes que dans d'autres domaines, je pense. Oui. Alors pourquoi ça, c'est... Peut-être parce que c'était des hommes, peut-être parce que c'était les années 20 et 30 et que c'était que le féminisme il était encore balbutiant. Mais c'est vrai qu'on aurait pu les imaginer aux côtés des suffragettes et prendre la cause des femmes et le vote des femmes et des choses comme ça. Et là, ils ont été très, très silencieux, oui, c'est vrai.
Oui, et puis bon, finalement, c'était un objet d'inspiration, la femme. Hein. C'était gala, c'était... Je crois qu'il nous reste à vous dire un très grand merci et à remercier l'assistance pour ce débat trop bref. Mais je crois qu'une autre conférence doit suivre, donc nous devons laisser la salle. Bonne soirée à tous et merci encore. Merci.